أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Précédent. Je vais aujourd'hui en détailler certains aspects. Hadrat Musleh Maud Radio explique le contexte de l'expédition de Tabouk. Il explique que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait conquis la Mecque. Il y avait un certain Abu Amir Madani qui était de la tribu Khazraj et qui avait l'habitude de faire des invocations et des récitations en raison de ses fréquentations avec les juifs et les chrétiens. Et c'est pour cela que les gens l'appelaient le moine. Mais il n'était pas chrétien de religion. Cet homme s'est enfui du côté de la Mecque après l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et quand la Mecque fut conquise, il s'est mis à réfléchir à une autre ruse pour susciter des troubles contre l'islam. Finalement, il a changé de nom, il a changé d'apparence, et il est parti s'installer dans le village Quba près de Médine. En raison de ses nombreuses années passées à l'extérieur et grâce à certains changements dans son apparence et ses vêtements, les habitants de Médine ne l'ont pas reconnu. Seuls les hypocrites avec lesquels il avait tissé des liens le connaissaient. Il avait proposé, en accord avec les hypocrites de Médine, de se rendre en Syrie pour inciter le pouvoir chrétien et les tribus arabes chrétiennes à attaquer Médine. Il a dit que, pendant ce temps, vous allez commencer à répandre la rumeur que les armées syriennes attaqueront Médine. C'est-à-dire, les hypocrites de Médine devront répandre ces rumeurs. Il leur a dit que si mon plan réussit, eh bien les Romains et les musulmans vont s'affronter. Ils se feront la guerre. Et même si mon plan échoue, en raison de ces rumeurs, les musulmans attaqueront peut-être eux-mêmes la Syrie. Et ainsi, la guerre éclatera entre le pouvoir de César et les musulmans, et notre affaire sera faite dans les deux cas. Nous allons gagner dans les deux cas. Voilà ce que s'est dit ce semeur de troubles. Ainsi, cet homme, après avoir incité à cela, est parti vers la Syrie. Et les hypocrites de Médine ont commencé à répandre quotidiennement à Médine des nouvelles, selon lesquelles telle caravane les avait rencontrés et avait rapporté que l'armée syrienne se préparait à attaquer Médine. Le lendemain, ils répétaient que des gens de telle caravane les avaient rencontrés et avaient dit que l'armée syrienne s'apprêtait à attaquer Médine. Ces nouvelles ont commencé à se répandre avec une telle intensité que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a jugé bon de se rendre lui-même en Syrie à la tête d'une armée islamique pour affronter les armées syriennes. C'était une période très difficile pour les musulmans, c'était une année de famine, la récolte de céréales et de fruits avait été mauvaise la saison précédente, et les récoltes de cette saison n'étaient pas encore produites, les moissons n'étaient pas encore coupées, c'était la fin de septembre ou le début du mois d'octobre. Lorsque le saint prophète paix soit sur lui est parti pour cette expédition, les hypocrites savaient que c'était une tromperie et qu'il avait agi ainsi par ruse afin que si l'armée syrienne n'attaquait pas, eh bien les musulmans aillent eux-mêmes se battre contre les Syriens, et ainsi ils seraient détruits. Les circonstances de la bataille de Mourta étaient devant leurs yeux. À cette époque, les musulmans avaient affronté une armée si grande qu'ils avaient à peine survécu après avoir subi de lourdes pertes. Maintenant, ils voulaient être témoins d'une autre bataille de Mourta de leurs propres yeux où, qu'Allah nous en préserve, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, serait lui-même tué selon eux. C'est pourquoi, d'un côté, les hypocrites répandaient quotidiennement des rumeurs en disant « Nous avons appris de telle source que l'ennemi va attaquer. Nous avons appris par telle source que les armées syriennes arrivent. » Et d'un autre côté, ils effrayaient les gens en disant qu'il n'était pas facile d'affronter une armée si nombreuse. « Vous ne devez pas partir pour la bataille. » Leur but avec ces actions était que les musulmans aillent attaquer la Syrie, mais autant que possible en un nombre minimum, afin que leur défaite soit d'autant plus certaine. Quoi qu'il en soit, compte tenu des rumeurs générales, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a examiné la situation et il a examiné les événements et il a conclu que s'ils tardaient à affronter les Romains ou s'ils leur permettaient d'entrer dans les zones sous l'influence musulmane, les dommages seraient plus importants. C'est pourquoi, malgré les difficultés et malgré l'intensité de la situation, il a décidé de ne pas laisser aux Romains la possibilité d'avancer et il a décidé de partir lui-même sur le territoire romain pour mener la bataille, une bataille décisive contre eux. Hadrat Musleh Maud Aradotelanhu a exprimé cela ailleurs en disant que lorsque ces rumeurs sont parvenues au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'au lieu que les Romains envahissent et attaquent Médine, nous devrions partir les arrêter à la frontière. Et ainsi, il a ordonné aux musulmans de se préparer pour la bataille. J'ai d'abord cité un livre d'histoire, ce petit extrait tiré des écrits du Musleh Maud radhiyallahu anhu. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohammed paix soit lui gardait généralement des expéditions militaires assez secrètes. Cependant, après l'expédition de Khaybar, l'expédition de Tabouk était telle que le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait une annonce publique. Il a expliqué à l'avance les difficultés du chemin ainsi que le grand nombre d'ennemis. Et il a exhorté à la préparation. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Parallèlement, il a envoyé des hommes à la Mecque et dans les autres tribus arabes pour qu'ils rejoignent l'armée musulmane. D'autre part, il a insisté auprès des personnes généreuses pour qu'elles dépensent leurs biens dans la voie d'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé un message à différentes tribus pour qu'elle participe à la bataille et il leur a envoyé ses ambassadeurs, comme mentionné précédemment. Ainsi, Buraïda bin Husayb a été envoyé vers la tribu Banu Aslam. Abu Ruham Rifari a été envoyé vers sa tribu Banu Rifar. Abu Waqid Laythi a été envoyé vers sa tribu Banu Layth. Abu Jad Azamri a été envoyé vers sa tribu. Rafi bin Muqis a été envoyé vers Juhayna. De même, Nouaim bin Masoud a été envoyé vers Ashja'a et Boudel bin Warqa. Amr bin Salim et Bousr bin Soufyan ont été envoyés vers les Banu Ka'b et vers les Banu Amr. De même, il a envoyé Abbas bin Birdas vers les Banu Sulaym. À Médine, il régnait alors une atmosphère de peur et de consternation. La raison était qu'il était possible qu'il y ait cette attaque imminente de la part d'un ennemi aussi puissant que les Romains. D'après un récit d'Al-Bukhari, Omar relate que nous parlions entre nous à propos d'un roi rassanide qui avait fait ferrer ses chevaux pour la guerre contre nous, c'est-à-dire qu'il s'était préparé pour la bataille. Et selon un autre récit d'Al-Bukhari, Omar radhiyallahu anhu déclare : nous avions peur d'un roi rassanide. On nous a dit qu'il se préparait à nous attaquer. C'est dans cette atmosphère que nos cœurs étaient emplis de peur. Quoi qu'il en soit, malgré cela, on a pu constater une manifestation édifiante de la préparation des compagnons ainsi que leur sacrifice financier. Il est écrit à ce propos que, en sus de cette peur et de cette panique, Médine était confrontée à une grave sécheresse à cette époque. Les cultures et les fruits étaient sur le point de mûrir. Dans cette sécheresse, les gens étaient préoccupés et se préparaient à récolter leurs cultures. Et c'est là que l'annonce a été faite pour le djihad. Ensuite, c'était une saison de forte chaleur et le voyage était de centaines de kilomètres. Il y avait manque de provisions. Toutes ces difficultés s'ajoutaient à cela. Malgré tous ces problèmes, le saint prophète Mohammed lui a annoncé le départ pour le djihad. Et les fidèles compagnons, exemple d'honnêteté et de loyauté, ont laissé leur récolte et leurs fruits mûrs pour se préparer pour le voyage. Bien que la préparation d'un si long voyage n'était pas chose facile pour ces compagnons pauvres mais sincères. Et le saint prophète Mohammed était pleinement conscient de ces moments difficiles. Par conséquent, il a lancé un appel général aux dons financiers, incitant les riches à dépenser dans la voie d'Allah et à fournir des montures. Et il a déclaré que quiconque équipe cette armée de la pauvreté méritera le paradis. C'est-à-dire quiconque équipera l'armée de Tabouk méritera le paradis. Et le premier à présenter ses biens était Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Il a apporté tous les biens de sa maison, soit 4000 dirhams. Le saint prophète Mohammed a demandé à Abu Bakr radhiyallahu anhu s'il avait laissé quelque chose pour sa famille. Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu : j'ai laissé Allah et son messager pour ma famille. Selon un autre récit, Omar radhiyallahu anhu relate : le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire de la charité. J'avais de l'argent à l'époque, je me suis dit que si je dois un jour surpasser Abu Bakr, eh bien ce sera aujourd'hui que je vais le surpasser. J'ai apporté la moitié de mes biens, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré : qu'as-tu laissé pour ta famille ? J'ai dit : seulement autant que j'ai apporté. Et Abu Bakr, quant à lui, avait apporté tout ce qu'il possédait. Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé en présence d'Omar : ô Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille ? Il a déclaré : j'ai laissé Allah et son messager. Omar radhiyallahu anhu a déclaré : par Allah, je ne pourrai jamais le surpasser en rien. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a également relaté cet incident en ses propres termes, en disant que, lors des préparatifs pour une bataille, Omar s'est dit : Abu Bakr me surpassait toujours, aujourd'hui je vais le surpasser. C'est en pensant à cela que je suis rentré chez moi et j'ai pris la moitié de mes biens pour l'apporter au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'était une période très difficile pour l'islam. Mais Abu Bakr radhiyallahu anhu a apporté tous ses biens et les a présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé : Abu Bakr, qu'as-tu laissé à la maison ? Il a répondu : Allah et son messager. Omar déclare : en entendant cela, j'ai ressenti une grande honte et j'ai compris qu'aujourd'hui je vais tout essayer pour surpasser Abu Bakr. Je vais faire de mon mieux, mais même aujourd'hui, Abu Bakr m'a surpassé. On rapporte ce qui suit sur les sacrifices financiers d'Othman radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Khabbab relate : j'étais présent auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il encourageait à soutenir l'armée d'Usra. Othman bin Affan s'est levé et il a déclaré : ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je prends en charge 100 chameaux avec leur sel et leur palanquin et je vais offrir cela dans la voie de Dieu. Ensuite, le saint prophète a fait un appel à contribution pour l'armée. Othman bin Affan s'est levé de nouveau. Il a déclaré : ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je m'engage à fournir 200 chameaux avec leur sel et leur palanquin pour la cause d'Allah. Le saint prophète a fait un nouvel appel pour contribuer pour les dépenses de l'armée. Et Othman bin Affan s'est levé de nouveau. Il a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Je m'engage à fournir 300 chameaux avec leurs selles et leurs palanquins pour la cause d'Allah. » J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, descendre de la chair tout en disant que Othman ne sera pas tenu responsable de ce qu'il fera après cela. Othman ne sera pas tenu responsable de ce qu'il fera par la suite. Selon un autre récit, Abdurrahman bin Samra a rapporté qu'Othman a également présenté 1000 dinars au Saint-Prophète Mohammed bin Sassanoui lorsque celui-ci a organisé la préparation de l'armée d'Ousra. Et Othman a déposé cette somme dans le giron de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman déclare « J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, retourner dans son giron ses dinars. » Et il disait que rien ne nuira à Othman après ce qu'il a fait aujourd'hui. Et il a répété ces mots à deux reprises. Selon un récit, Othman a offert 10 000 dinars à cette occasion. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a fait cette prière en faveur d'Othman. Qu'Allah te pardonne, Othman. Qu'Allah te pardonne pour ce que tu as caché et ce que tu as révélé et ce qui doit arriver jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire, Othman, qu'Allah te pardonne pour tes actions que tu as accomplies en secret et pour tes actions que tu as accomplies ouvertement et pour ce qui doit arriver jusqu'au jour du jugement. Il ne doit pas se soucier de ce qu'il fera par la suite. Selon un autre récit, Othman a offert 1000 chameaux et 70 chevaux pour cette bataille. Selon un récit, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a fait cette invocation en faveur d'Othman lors de cette occasion. Oh Allah, sois satisfait d'Othman, car moi aussi je suis satisfait de lui. Ibn Ishaq rapporte que lors de l'expédition de Tabouk, Othman a dépensé une somme si considérable qu'aucun autre compagnon n'en a dépensé autant. Un convoi commercial d'Othman est revenu de la Syrie avec beaucoup de bénéfices. Il a pris en charge toutes les dépenses d'un tiers de l'armée. Il a déclaré que « je prendrai en charge les dépenses de l'armée » et il a fourni des équipements pour plus de 10 000 soldats et il a veillé à ce que chaque soldat ait une lanière payée de son propre argent. C'est-à-dire que même les plus petites choses soient prises en charge par lui. Cela lui a coûté 10 000 dinars, sans compter les chameaux et les chevaux. En sus de cela, il a offert 1000 chameaux et 100 chevaux et d'autres biens ainsi que 1000 dinars au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces 1000 dinars étaient distincts des 10 000 dinars qu'il avait dépensés pour préparer 10 000 soldats. À cette occasion, Abdurrahman bin Auf a offert 100 aqiyas d'argent. Selon certaines versions, il a offert 200 aqiyas d'argent. L'orqia est également une unité de poids qui équivaut à 10 tolas et demi. Cela représente donc 1050 à 2100 tolas d'argent, soit environ 1 kg et quart à 2 kg et demi d'argent de l'époque actuelle. Ensuite, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré Othman bin Affan et Abdurrahman bin Auf sont des trésors parmi les trésors d'Allah sur terre. Ils dépensent pour le plaisir d'Allah. Et ils ont offert beaucoup de biens. Selon un récit, Abdurrahman bin Auf aurait offert 400 aqiyas d'or, soit environ 4200 tolas d'or, soit environ 48 kilos d'or. Certains mentionnent également l'offrande de 900 chameaux. En tout cas, tels étaient ses sacrifices. Selon un autre récit, Abdurrahman bin Auf s'est présenté au saint prophète, puis soit à lui et a déclaré « J'ai 8000 dirhams ». J'en ai gardé 4000 pour ma famille et je vous en présente 4000. Le saint prophète, paix soit sur lui, a prié pour lui en disant que Dieu te bénisse pour ce que tu as gardé et pour ce que tu as offert. C'est-à-dire que Dieu bénisse les biens que tu as gardés pour ta famille et ceux que tu as offert dans la voie de Dieu. Asim bin Adi a offert 70 wasq de dattes. Un wasq équivaut à 60 sa et un sa équivaut à environ 3 ser. Cela représente donc environ 12 600 kg de dattes. Parmi ceux qui apportaient des biens au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, on trouve également les noms d'Abbas bin Abdel Muttalib, Talha bin Ubaidullah, Sa'ad bin Obada, ainsi que Mohammed bin Maslama. Il s'agit de ceux qui ont consenti à de nombreux sacrifices. Le Messie premier Islam déclare: il fut un temps où les gens sacrifiaient leur vie pour la religion divine comme des moutons et des chèvres. Que dire de leur bien? Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, a sacrifié plus d'une fois tous ses biens, ne laissant même pas une aiguille chez lui. Et de même, Omar radhiyallahu anhu, selon ses moyens et selon sa situation, et Othman, selon sa force et sa situation, et ainsi de suite, selon leurs niveaux respectifs, tous les compagnons étaient prêts à sacrifier leur vie et leurs biens pour cette religion divine. D'ailleurs, Allah l'Exalté a déclaré: «Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun», c'est-à-dire que vous n'atteindrez pas la vertu tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus, vous n'allez pas atteindre le rang de la vertu. Et les compagnons dépensaient de leurs biens afin d'obtenir ces hauts rangs dans le domaine de la vertu. Hadrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu déclare que les compagnons ont parfois vendu leurs biens personnels pour couvrir les dépenses de guerre. On constate même qu'ils ont parfois vendu la propriété pour les dépenser pour les autres. Et ils ont fourni tous les besoins, c'est-à-dire pour ceux qui partaient en guerre. Une fois, le saint prophète Mohammed lui est sorti et il a déclaré: «Notre armée va partir pour telle expédition, mais les croyants ne possèdent rien. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui veuille obtenir une récompense?» En entendant cela, Othman s'est levé et il a fait sortir ses économies. Il a présenté cela au saint prophète Mohammed pour les dépenses des musulmans. Le saint prophète en voyant cela a déclaré que Othman a acheté le paradis. Le troisième calife, qu'Allah soit satisfait de lui, a également relaté cet événement dans son sermon lorsqu'il a évoqué les sacrifices financiers. Il a déclaré: à une certaine occasion, beaucoup de biens étaient nécessaires pour préparer une bataille. On faisait face à des difficultés financières à l'époque. Et le monde en est ainsi. Il a des jours d'aisance, il a des jours de difficultés. C'était une période de difficultés. Et il y avait cette nécessité concernant cette bataille. Le saint prophète, paix soit sur lui, a exposé la situation aux compagnons. Et il les a exhortés à consentir à des sacrifices. En conséquence, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a offert tous ses biens. Omar radhiyallahu anhu a apporté la moitié de ses biens. Othman a proposé que l'on accepte son offre, à savoir qu'il prendrait en charge tous les frais de 10 000 compagnons. En sus de cela, il a offert 1 000 chameaux et 70 chevaux. Ainsi, tous les compagnons sincères ont fait des sacrifices financiers en fonction de leurs moyens et de la capacité, et Allah en a tiré les meilleurs résultats. C'est là une grande faveur d'Allah que les membres de la Jamaat Ahmadiyya comprennent l'importance des sacrifices financiers. Je cite souvent des exemples à cet égard. Certaines personnes sacrifient vraiment ce qu'elles possèdent. Les riches et les personnes en position devaient prendre exemple sur Abu Bakr as-Siddiq, Omar et Othman, qu'Allah soit content d'eux. Et ensuite, ils doivent élever le niveau de leur sacrifice. Les pauvres et la classe moyenne sont occupés à faire des sacrifices. Par la grâce d'Allah, de nombreux riches font également des sacrifices de grande qualité. Ceux qui sont faibles devraient également se manifester pour la diffusion de la religion. En ces temps, ils ont aussi l'occasion de faire des sacrifices. Les compagnons ont offert ce qu'ils pouvaient dans la mesure du possible. Et ils ont fourni des montures, des épées et d'autres équipements de guerre aux soldats pauvres et démunis. Certains compagnons hommes et femmes pauvres du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, lorsqu'ils offraient un ou deux mouds de céréales, eh bien leur cœur se remplissait d'espoir souhaitant offrir davantage. Mais les hypocrites se moquaient d'eux en disant: ces quelques poignées de grains vont-elles vaincre César? Le moud est une petite mesure, l'équivalent de quelques poignées. Allah déclare à propos de ces railleries des hypocrites. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. C'est-à-dire ceux qui calomnient les croyants qui font de l'aumône volontairement et ceux qui ne trouvent rien d'autre que leurs efforts et se moquent d'eux, Allah se moquera d'eux et ils auront un châtiment douloureux. Parmi ceux qui firent un sacrifice financier grâce à leur travail, il y avait un certain Abu Ghil. Il a passé toute la nuit à puiser de l'eau d'un puits et il a reçu 2 sars de date. Le sa est une mesure de poids, un sa équivaut à environ 2,5 kg, ce qui signifie qu'il a reçu en total environ 5 kg de dattes. Il engorda un sar pour sa famille et il a pris un sar de dattes pour l'offrir au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'était le sacrifice qu'il pouvait faire. Hadrat Muslim Maud Radutranhu a déclaré que une fois, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a lancé un appel aux dons et en compagnon est allé travailler pour gagner un salaire. Peut-être qu'il est parti puiser de l'eau d'un puits, et en échange, il a reçu environ 3/4 de serre de céréales qu'il a apporté, qu'il a versé dans la collecte. À ce moment-là, on avait besoin de milliers, les hypocrites s'en moquaient et disaient « Est-ce qu'on se prépare ainsi pour la guerre ?» Il s'agit de l'événement de Tabouk qui mettait aux prises les Romains, et l'État romain à cette époque était comme l'État anglais aujourd'hui. À l'époque où le Muslim Maud faisait cette déclaration, les Anglais dominaient dans le monde. Et pour affronter un État aussi puissant, ce compagnon n'a offert que quelques poignées d'orge. Et les hypocrites s'en moquaient. Mais lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui l'a su, il a déclaré « Savent-ils quelle est la valeur de cette orge aux yeux de Dieu ?» C'était cette orge qui a permis aux musulmans de remporter la victoire. Et les Romains ont été vaincus, et les musulmans ont vaincu non seulement les Romains, mais ils ont également vaincu les Iraniens, dont le royaume rivalisait avec celui des Romains. On raconte aussi une étrange anecdote concernant un compagnon. Comme on l'a dit, pendant cette bataille, divers compagnons étaient occupés à se préparer au voyage et à faire des sacrifices financiers. Chacun faisait de son mieux pour participer à cet élan. Les riches compagnons offraient leurs biens et leurs fortunes, et les compagnons pauvres et nécessiteux offraient ce qu'ils obtenaient de leur labeur, aussi modeste soit-il. Dans ce contexte, on mentionne un compagnon nommé Urwa bin Zayd, qui, pour obtenir le plaisir d'Allah, a adopté une approche si innocente qu'elle était différente et unique par rapport à toutes les autres. Il était aussi très démuni et pauvre, il n'avait rien à offrir. Il n'avait pas non plus la force de participer au combat. Alors, une nuit, il se leva pour la prière et en pleurant et en gémissant, il a déclaré « Oh Allah, tu as ordonné encourager le djihad, mais moi je ne possède rien et ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas non plus les moyens de me fournir l'équipement nécessaire pour aller au combat. » Et ton prophète a lancé un appel aux dons financiers, mais moi je ne peux pas y participer non plus. Cependant, je fais l'aumône aux musulmans en pardonnant chaque injustice et transgression commise contre ma vie, contre mes biens et mon honneur. Ainsi donc, au matin, il s'est présenté avec les autres compagnons au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé « Où est celui qui a fait aumône de son honneur cette nuit ?» Et personne ne s'est levé. Il a répété cette phrase, mais personne s'est levé. Finalement, Urwa s'est levé et il a tout raconté. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Réjouis-toi par celui qui détient mon âme dans sa main. Tu as été inscrit parmi ceux dont l'aumône a été accepté. Réjouis-toi par celui qui détient mon âme entre ses mains, tu es inscrit parmi ceux dont l'aumône a été accepté. Quel magnifique et unique esprit de sincérité et de sacrifice. Et Allah qui connaît l'état des cœurs et qui a connaissance de toute situation a également accepté cet esprit de sa part. Et il en a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes n'étaient pas en reste à cette occasion, elles ont offert leurs bijoux pour la préparation de cette bataille. Ainsi, Umm Sinan Aslamia relate. J'ai vu dans la maison d'Aïcha radhiyallahu anha un tissu étalé devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y avait du parfum, des brassards, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues ainsi que des anneaux de cheville. Ces femmes ont fait cela pour préparer le djihad des musulmans. Quoi qu'il en soit, d'une part, telle était la situation des croyants sincères, et d'autre part, les hypocrites ont également fait tout leur possible à cette occasion. Et d'un certain point de vue, c'était la dernière ruse et la dernière conspiration des hypocrites. Les hypocrites étaient pleinement convaincus de leur succès. Ils étaient fermement persuadés que les musulmans entreprendraient ce long voyage vers la Syrie. Et par cette conviction diabolique que, Dieu nous en préserve, le saint prophète Mohammed peut soit lui, ne pourra pas revenir vivant à Médine. Par conséquent, leur principal objectif était désormais de faire en sorte que le moins de musulmans possible partent avec le saint prophète Mohammed peut soit lui. Et selon leur pensée, moins il y aura de musulmans partant en expédition, plus petite sera l'armée. Et ainsi, la défaite et la mort de cette armée seraient certaines. C'est pourquoi ils ont commencé à exagérer les difficultés de la situation, les peines et les problèmes du voyage. Ils ont commencé à effrayer les musulmans. Et ils n'ont cessé de les détourner avec différents prétextes, comme la chaleur accablante, comme la longueur du voyage et les moyens limités. Et la majorité de la population de Médine vivait de l'agriculture et leur récolte était prête, d'autant plus qu'elle mûrissait en période de famine. Puis ils allaient de place en place à Médine, ces hypocrites disant aux musulmans « Savez-vous que l'armée que nous allons affronter est très dure et belliqueuse ? La guerre contre eux n'est pas une mince affaire. Nous voyons bien ce qui va se passer. Vous allez tous être tués ou réduits en esclavage. » Voilà ce que disaient les hypocrites. C'étaient là les propos de ces hypocrites. Bien que cette propagande des hypocrites n'ait eu aucun effet sur les croyants sincères et de haut rang, le cœur de certains croyants faibles fut si effrayé qu'ils commencèrent à présenter différentes excuses et prétextes pour ne pas se rendre à la bataille. Bien que la majorité de ceux qui présentaient de telles excuses étaient des hypocrites, le Coran évoque ainsi la propagande des hypocrites et leurs excuses pour ne pas participer à la bataille. Il est dit « Fariha al-mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashadu harra law kanu yafqahun. » Ceux qui sont restés en arrière se réjouissent de leur inaction après le départ du messager d'Allah. Et ils répugnaient à combattre avec leurs biens et leurs personnes. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ne partez pas en expédition par une telle chaleur. Dis-leur, le feu de l'enfer est bien plus ardent encore. » Ah, s'ils pouvaient comprendre. Qu'ils rient donc peu de la tromperie et qu'ils pleurent beaucoup en conséquence de leurs actions. Selon les récits, ces gens se présentaient au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils lui présentaient une excuse quelconque pour ne pas participer au djihad. Ils demandaient des permissions pour ne pas participer au combat. Et le saint prophète Mohammed peace soit sur lui leur accordait cette permission. Plus de 80 personnes ont obtenu par divers stratagèmes et prétextes la permission de ne pas participer au djihad. Et ce, en sus des hypocrites qui étaient avec Abdullah bin Ubay et d'autres. Allah avait dévoilé tous les prétextes des hypocrites et expliqué cela clairement dans le Saint-Coran, notamment que le fait qu'ils étaient restés en arrière était dû à la faiblesse de leur foi et qu'ils étaient des menteurs dans leurs excuses. Et lorsque des versets ont été révélés à leur sujet dans le Saint-Coran, cela servit d'avertissement à l'avenir, pour que chacun sache comment répondre à un appel ou à une mobilisation lancée par l'imam. Il faut s'y rendre et quoi qu'il arrive, il faut se préparer à y participer autant que possible. Ainsi, Allah déclare. S'il s'agissait d'une destination proche et d'un voyage facile, ils t'auraient certainement suivi, mais l'effort leur paraît bien trop pénible. Ils jureront certainement par Allah que s'ils en avaient la capacité, ils partiraient assurément avec vous. Ils ne font que se perdre eux-mêmes, et Allah sait qu'ils sont assurément des menteurs. Que Dieu te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné la permission avant de distinguer ceux qui disaient la vérité et de connaître les menteurs? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas de dispense de combattre avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît parfaitement les muttaqis. Seuls ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier te demandent de les dispenser de partir au combat. Et leurs cœurs sont remplis de doutes, et ils hésitent dans leurs doutes. Et s'ils avaient eu l'intention de partir au combat, ils se seraient certainement préparés, mais Allah a répugné à ce qu'ils se lèvent pour cette noble cause, et il les a laissés en arrière, et il leur a dit « Restez assis avec ceux qui restent assis ». S'ils s'étaient joints à vous, ils n'auraient fait qu'ajouter de la confusion parmi vous, et ils se seraient employés à semer la discorde entre vous, tout en sachant qu'il y a parmi vous des gens qui les écoutent attentivement. Allah connaît parfaitement les injustes, et ils ont cherché à créer la sédition, même avant ceci, et ils t'ont présenté les choses d'une façon embrouillée jusqu'à ce que la vérité fût manifestée, et que l'objectif d'Allah eût prévalu, et ce, en dépit de leur aversion. Ainsi donc, dans ce passage, Allah le Très-Haut révèle la condition des hypocrites. Il informe le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a accepté leurs fausses excuses. S'il ne les avait pas acceptées et ne leur avait pas donné la permission, leur hypocrisie aurait été démasquée aux yeux de tous, et elle se serait certainement révélée. Ils n'auraient de toute façon pas participé à la bataille, mais Allah dit que leur absence est préférable, car s'ils étaient partis pour la bataille, pour une raison ou une autre, ils auraient commis des actes nuisibles aux musulmans pendant la bataille. En tout cas, les résultats ne se sont pas déroulés comme le souhaitaient les hypocrites. Inch'Allah, je présenterai le reste des récits à l'avenir. Dans le sermon précédent, j'avais mentionné l'attaque contre la mosquée de Rabwa. Prions pour les jeunes Ahmadis qui ont été blessés. Qu'Allah accorde à tous une guérison complète. Qu'Allah les protège également de toute complication. Parfois, même plus tard, des séquelles apparaissent suite à ce genre d'accident. Actuellement, 3 khoudams sont grièvement blessés et sont toujours hospitalisés. Les 5 autres ont été soignés et renvoyés chez eux, mais en tout cas, leurs blessures prendront du temps à guérir. Qu'Allah leur accorde une guérison complète et qu'Allah protège les membres de la communauté de tout mal, de toute perte partout à l'avenir. Après la prière de Jumma, je dirigerai une prière funéraire. La prière funéraire de l'honorable Sam Ali Nina Saheb des îles Marshall. Cette prière funéraire se fera en absence de la dépouille. Il est décédé récemment en Californie, aux États-Unis, à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt a découvert l'islam pour la première fois dans les années 80 grâce au travail de prédication de Hafiz Dibril Saïd Saheb, qui était notre missionnaire là-bas. Le défunt s'est alors converti à l'islam et il a embrassé l'Ahmadiyya. Au tout début, le défunt a rencontré une forte opposition suite à sa conversion, mais il était resté fermement attaché à sa foi. Par la suite, un sénateur du pays a déclaré au Parlement que l'islam était une religion illégale et associée au terrorisme. Et le défunt a courageusement envoyé un message au journal local, affirmant qu'il était un musulman Ahmadi et qu'il n'avait aucun lien avec le terrorisme. Cette déclaration courageuse a renforcé la Jamaat. Ce sénateur avait tenté de faire adopter une loi, mais finalement, grâce aux efforts du défunt, cela n'a pas pu se faire. Le défunt était connu comme une personnalité influente dans la société locale. Falahuddin Shamsab Vissemir des États-Unis déclare qu'il a eu la chance de travailler aux îles Marshall pendant 5 ans. Il a déclaré que je partais là-bas parce que ce pays était sous la tutelle de la Jamaat des États-Unis. Sam Sahib s'était converti à l'Ahmadiyya par l'intermédiaire de Hafiz Jibrail Sahib. Au début, il n'y avait que 4 ou 5 familles Ahmadi et toute la communauté était très petite et non enregistrée. Malgré tout, grâce aux efforts acharnés de Hafiz Jibrail Sahib, la communauté a été enregistrée là-bas. Hafiz Sahib est revenu et pendant longtemps, il n'y a pas eu de missionnaires là-bas aux îles Marshall. Sam Saheb a lui-même pris en charge la communauté, ce jusqu'à son décès. Il a continué à prêcher et il n'a jamais laissé le nom de la Jamaat s'éteindre. Le défunt coopérait chaleureusement avec la communauté. Chaque fois qu'une délégation du centre venait, il aidait les membres de la délégation et il était toujours à l'avant-garde et il travaillait de manière productive. Il a joué un rôle important, un rôle de premier plan dans l'établissement de la Jamaat aux îles Marshall. La plupart des nouveaux convertis sont devenus musulmans Ahmadi grâce à ses efforts. Le défunt a également servi en tant que président de la Jamaat des îles Marshall. Ensuite, Sham Saheb relate que lorsqu'il est parti établir une mission à Cox Bazar, Sam Saheb l'a également aidé. Certains de ses amis ont rejoint la Jamaat et, par la grâce d'Allah, une maison de mission a été achetée, un bâtiment a été construit là-bas. Le défunt a également aidé à établir une mission à Kiribati. De même, il a aidé à établir des missions dans d'autres régions. Le missionnaire relate que j'ai demandé à Sam Saheb quelle était la raison pour laquelle Il avait été honoré de jouer un rôle central dans l'établissement de la Jamaat dans trois îles différentes. Le défunt a répondu avec une grande humilité que tout cela était la faveur d'Allah et qu'il n'avait aucun mérite. Qasim Chaudhry Saheb, missionnaire de la Jamaat aux îles Marshall, relate qu'il était resté fidèle à sa foi malgré les obstacles et le défunt a fait des sacrifices avec son épouse. Son épouse a fait donation d'un terrain. Elle a offert une parcelle de terrain sur laquelle se trouve aujourd'hui la toute première mosquée des îles Marshall. Voici, selon ses propres mots, le récit de sa conversion en islam. Le défunt relate: en 1987, ma femme Nari et moi étions hébergés dans un hôtel à Long Island. Un matin, nous sommes sortis et nous avons vu un grand homme africain. Je l'ai salué et il a répondu à ma salutation et nous nous sommes présentés. J'ai appris par la suite qu'il s'agissait de Hafiz Jibrail Saheb, le premier missionnaire en Micronésie. En tout cas, nos rencontres se sont poursuivies et les relations se sont développées. Le missionnaire m'a prêché le message de l'islam et il m'a montré des versets de la Bible. Et Jibrail Saheb a expliqué qu'il y a une prophétie dans la Bible concernant l'arrivée d'un prophète après Jésus alayhi salam. Le défunt relate que j'étais surpris de constater qu'il ne s'agissait pas d'un seul verset, mais qu'il y avait plusieurs versets. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même déclare que je dois partir et Dieu enverra quelqu'un après moi. Ceci se trouve dans Jean chapitre 16, verset 7. Ce sont des faits que je n'avais jamais entendus auparavant et Hafiz Saheb m'explique cela avec une grande clarté en citant la Bible à chaque fois. Finalement, Allah m'a guidé et j'ai vu les faits. Mon cœur s'est tourné vers l'islam et je me suis converti. Pendant ce temps, lorsque j'ai accepté l'islam et que les gens l'ont appris, des fonctionnaires de l'État ont dit qu'ils ne laisseraient jamais l'islam se propager aux îles Marshall. J'ai alors téléphoné à Hafiz Saheb, mais il était déjà parti. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'Allah ouvrira des voies. Et Allah a ouvert de telles voies qu'un jour, alors que j'étais assis chez moi, une personne du bureau du procureur général est venue pour me dire que l'enregistrement de la Jamaat a été approuvé. Là où des notables voulaient s'y opposer, Allah a pourvu à tout de telle sorte qu'Allah lui-même a facilité l'enregistrement. Et l'approbation a été présentée chez le défunt. Le défunt déclare que j'ai immédiatement envoyé la copie à Hafiz Saheb. Quoi qu'il en soit, avec le temps, j'ai compris que l'Ahmadiyya se distingue des autres musulmans et j'en suis très fier. Une voix s'élevait toujours dans mon cœur disant que j'étais un musulman Ahmadi et j'en étais très fier. Pendant 20 ans, aucun missionnaire n'était venu ici et j'étais très inquiet. Hafiz Saheb a déclaré « Écrivez des lettres au calife de l'époque et on trouvera une solution finalement ». En tout cas, en 2004, j'ai reçu des instructions du centre qu'un étranger arrivait et que je devais partir le chercher à l'aéroport. Je suis arrivé là-bas, à l'aéroport, et après un moment, un homme est sorti de l'aéroport en souriant et il a demandé mon nom. J'ai répondu « Je m'appelle Sam ». Il a répondu « Mon nom est Kausar ». Il s'agissait d'Inamullah Kausar Saheb. Et à partir de ce jour, dit le défunt, nous sommes devenus comme des frères. Ensuite, nous avons voyagé à Sarai, à Kosarai et à Pompéi. Nous avons passé une semaine là-bas et ainsi, nous nous sommes séparés et nos relations étaient comme si nous nous connaissions depuis fort longtemps. C'était la fraternité islamique et après être devenu musulman par la grâce d'Allah, mon cœur a trouvé la paix et mon âme a trouvé la sérénité. La prière m'a changé complètement et même mon épouse a remarqué ce changement en moi. Et depuis, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je le demande à Allah et il me l'accorde immédiatement. Plusieurs fois, j'ai vu de mes propres yeux cette assistance et à chaque prière, j'ai rendu grâce à Allah, le Tout-Puissant. La petite fille du défunt nommée Julia relate ceci à propos du défunt. Il était un musulman très sincère qui trouvait réconfort et force dans sa foi. Il passait souvent du temps à prier et il chérissait énormément la récitation du Saint-Coran. Il étudiait constamment divers ouvrages islamiques. Nous l'avons souvent trouvé plongé dans de profondes réflexions et des préoccupations. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Certains membres de sa famille ne sont pas Ahmadis, puisse Allah permettre à leur descendance d'embrasser l'Ahmadiyya.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر